Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. On lui a proposé de venir souffler un peu dans notre studio parce qu'après la grosse fin de semaine qui vient de passer, on s'est dit « Pierre Lavoie va avoir besoin d'un petit répit ». On lui donne une petite demi-heure pour venir nous parler de tout ce qu'il fait, de tous ses projets. Surtout savoir à quoi il carbure toujours plus que jamais. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Isabelle.
C'est vrai que tu as eu un gros week-end, plein de jeunes autour de toi, vous avez bougé, c'était la course du grand défi Pierre Lavoie.
Ouais, puis c'est tellement nourrissant, non? Tu sais, de voir 5500 jeunes, on peut pas en prendre plus en passant, non? Mais de mettre autant d'efforts pour cette génération-là, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui le font. Oui, on va faire beaucoup d'efforts pour des marathons, pour des adultes, mais pour des enfants, c'est rare qu'on met autant d'efforts. Vous savez, juste la coordination, ça prend 32 chars de police. Pour assurer la sécurité pendant 30 heures.
Sur les 270 kilomètres, là. C'est
sur
ça?
Un serpent, qui est finalement 145 autobus qui se déplacent à faire courir les élèves à relais le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça demande une logistique folle. Puis les gens, pourquoi vous faites autant d'efforts? Parce que ça vaut la peine. C'est ces jeunes qui, demain, seront des citoyens, des parents, des chefs d'entreprise. Et ils ont reçu les valeurs des saines habitudes de vie. Puis ce que j'aime dans notre concept, c'est que c'est démocratique, c'est inclusif. Donc, j'ai vu des jeunes autistiques courir, j'ai vu des jeunes 7 écoles du Nord. On dit souvent, les jeunes autochtones, ils bougent encore pas mal moins que les Québécois. Ben là, ils sont descendus du Nord, là. Ils sont venus au Sud faire cette course. Pour la plupart, ils n'étaient jamais venus dans le Sud. Ils ont vu le fleuve Saint-Laurent, ils ont vu le Parlement de Québec, puis ils ont vu surtout l'entrée au Stade olympique. Donc, oui, on les fait rêver, mais ils doivent s'entraîner pendant 6 mois, par contre, pour le faire, avec encadré par des enseignants, par des parents.
Ces 5500 jeunes se sont entraînés, c'est ça, pendant...
Ils commencent en septembre, l'entraînement. Ouais. Puis, il y a plus que 40 élèves par école. Au départ, ils peuvent être 120, 150. Et en cours de route, mais il y en a 40 à la fin qui vont faire l'équipe. Puis, on demande aux écoles de choisir les jeunes qui ont le plus besoin de relever un défi dans leur vie. Donc, on veut pas les sportifs. Les sportifs, c'est réglé pour eux. Les saines habitudes de vie, c'est réglé. C'est les autres qui m'intéressent. Moi, dans une école secondaire, là, Je regarde jamais ceux qui font le...
Qui sont dans le premier rangé, en avant, là.
Ouais, puis ceux qui font le volley, volleyball, basketball, sport-études, ou même les clubs qu'on peut avoir dans les écoles où on veut des bannières parce qu'on est en compétition contre les écoles privées et publiques, là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres. Comment on fait pour rejoindre la jeune fille? Est-ce que la structure d'accueil scolaire lui parle? Vous savez, moi, je me suis beaucoup basé sur, avant de lancer ces programmes, surtout celui de la course, là, j'avais dit à Germain, qui était mon pote, hein, moi, Germain, qu'on pense à toutes les idées qu'on fait. J'ai surtout regardé des pays scandinaves qui, eux, ce qui est très surprenant.
Germain Thibault,
oui.
Frère de Pierre Thibault.
Le frère de Pierre, exactement.
Architecte avec lequel, et Ricardo, tu as ce projet de la Bécole.
C'est ça. Donc, Germain,
c'est juste pour resituer les gens.
Oh, oui, Germain, c'est un ami, puis c'est le directeur général du Grand Défi, c'est un gars extraordinaire. J'ai dit à Germain, c'est simple, c'est que les jeunes, quand t'es ado, pour avoir eu 4 enfants, là, donc qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent les amis puis le plaisir. Ses amis, c'est très important au secondaire. Mm-hmm. Donc, si on organise un événement sans chronomètre, donc tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas discriminé, tu vas pouvoir le faire avec tes amis puis dans le plaisir, c'est gage du succès. Ce modèle, je l'avais vu dans les pays scandinaves, en Suède, en Norvège, en Finlande. Ces pays où on n'a fait aucune compétition avec 14 ans, dans aucun sport, c'est interdit. Où ils doivent apprendre 5 sports différents à l'école, OK? Et ce qui dicte leur programme, c'est 2 prémices, le plaisir puis les amis. Et après, ils mettent leur structure compétitive après 14 ans. Donc, à l'école secondaire...
On est loin de là, nous.
Il va falloir y arriver. Vous savez, en Norvège, 94% des jeunes ados font un sport la fin de semaine. Et ils font... C'est non compétitif. Tu dois développer tes habiletés motrices. Le sport, ça sert à développer l'humain. Puis en bout de ligne, tu te rends compte que le sport, c'est pour maintenir ton corps en santé.
Mais la Norvège, on se compare beaucoup à la Norvège, Pierre, mais on n'est pas la Norvège. On est loin de là.
On est très loin de là. On est un pays d'hiver comme eux.
Oui, mais...
Oui, mais c'est parce que...
À part le froid,
Isabelle,
là,
sincèrement...
Nomme-moi d'autres points en commun. Tu sais, nous, on a un gros mélange. Ici, c'est...
Nous, on a le modèle américain. Le modèle américain, c'est l'exclusion. L'exclusion, ça veut dire quoi? C'est que si t'as pas de talent au volleyball, là... T'es en secondaire. Mais rapidement, t'auras pas de plaisir.
C'est ça.
Parce qu'on organise des compétitions très jeunes. Parce qu'on organise des compétitions trop jeunes. Où on va mesurer et comparer les bons et les pas bons. Celui qui performe pas, bien entendu, l'équipe veut le garder, mais finalement, est-ce qu'il y a du plaisir? Je viens de le dire tout à l'heure. L'enfant, ce qu'il recherche, c'est les amis et le plaisir. Donc, on perd un des éléments.
Mais regarde notre approche par rapport au hockey. Dès qu'ils ont 4-5 ans, les petits gars au Québec se font dire, hey, peut-être tu vas être un prochain LNH, là.
Mais pourquoi
Alors, va falloir le dire aux parents.
Mais pourquoi qu'en Suède, où ils ont deux fois moins de joueurs de hockey que nous, produisent plus de joueurs de hockey que le Québec? Pourquoi la Suède, je le répète, qui ont deux fois moins de joueurs de hockey dans leur ligue, produisent deux fois plus de joueurs de la Ligue nationale que le Québec? Hein? Ben, c'est parce que c'est le même programme, 14 ans, interdit de faire des compétitions avec 14 ans. Il n'y a aucun classement au hockey. Il n'y a pas de lettres non plus. Et eux, la patinoire, il est divisé en deux pour jouer dans le sens de la largeur. Puis c'est un des pays au pourcentage qui produit le plus de joueurs, la Ligue nationale de hockey, qui est notre sport national à nous. Donc, il faudra regarder un peu nos approches. Est-ce que le jeune a la chance de développer ses habilités? Est-ce que le jeune a la chance d'avoir faire un sport où il augmente sa confiance en lui? Si on met un chronomètre, puis je te compare avec moi, là, tu vas être découragé assez vite parce que je cours vite. Puis moi, je vais ramasser une médaille, puis je vais toujours être sur le podium.
Ouais.
Tu vas finir par t'étonner, puis tu n'as pas de plaisir.
Ouais.
Donc, on a oublié le plaisir puis les amis. Tous ces pays où ils font de l'inclusion, nous, on fait de l'exclusion. On veut les avoir à 4 ans. Si on pourrait repérer le jeune à 4 ans et mettre un commanditaire, des entraîneurs, il ne faut pas qu'il joue avec d'autres jeunes qui sont moins bons. Ça va le nuire. Faut
le soccer,
bons.
Ça t'a
ça, c'est le modèle américain. Ouais. Mais moi, en même temps, je dis souvent aux gens, les Américains, oui, ils gagnent des médailles au jeu, là. Mais c'est la société la plus obèse au monde. Donc, ce n'est pas les médailles qui font qu'une société bouge. C'est ton inclusion, ta démocratisation. Ton
mais éducation. Tout le sport scolaire, le sport étudiant est basé sur ce modèle-là.
Ben oui, il part du CEO qui, lui, descend dans les écoles par des fédérations, puis qui veulent repérer le terrain plus. Puis il y a des organismes maintenant qui sont bien implantés dans les écoles, qui organisent des ligues. Qui au secondaire peut jouer du volleyball pour le plaisir? Qui au secondaire peut jouer
même
au
soccer,
basketball?
Ouais.
Mais qui, pour le plaisir, là, sans compétition, sans comparaison, pour le plaisir. Vous savez, à l'époque, on avait des patinoires derrière chez nous. T'sais. Puis on allait avec nos amis, puis quand on gagnait 10-1, qu'est-ce qu'on faisait? On divisait l'équipe parce que c'était plate de gagner 10-1. On voulait que ça soit égal pour avoir du plaisir. On a oublié cet élément-là. Donc, le jeune, vu qu'il n'y a pas de plaisir, puis c'est des sports organisés, ben il décroche. Et quand on regarde au secondaire, un des sports le plus dramatique, selon moi, c'est la natation. Là.
Ceux qui ont mais il n'y a pas de piscine.
Oui, je sais, mais ceux qui vont nager dans des clubs de natation, vous regarderez voir si votre enfant va nager encore au cégep.
Ah, non,
95% abandonnent au cégep parce que l'équipe est terminée.
Ouais.
Tout le monde est parti dans des cégeps différents. Puis la plupart de ces jeunes ne nageront plus jamais de leur vie. Pourtant, ils ont nagé 10 à 12 fois semaine pour atteindre des niveaux de standard, pour être en mesure d'avoir des bannières pour l'école. Donc moi, je remets en question un peu, je suis pas contre l'élitisme du tout, mais il faut pas qu'il y ait juste cette offre. Dans nos écoles, il manque une offre. L'offre d'accueil, c'est surtout d'accueil qui, vous savez, on a eu les Jeux olympiques, ça a stimulé plein de jeunes à faire du sport. Même ma fille, papa, on a écouté les Jeux ensemble, c'est stimulant. Mais moi, ce qui me préoccupe toujours, quel genre de structure d'accueil elle recevra à l'école? Puis là, je ne vais pas tout mettre dans la cour des écoles. Là. Nous aussi, les parents, on a une responsabilité. Là.
Tellement. Là, c'est on a comme la plus modèle importante. Des parents qui ne bougent pas.
On a la plus importante.
Hey, c'est sûr. Là.
Donc, en fin de semaine, ce qu'on a vu, c'est 5500 jeunes avec du monde qui les encadre.
Mais tu as dit le mot, Pierre Lavoie, décrochage tout à l'heure. Tu as dit qu'ils ne bougent pas assez, puis donc ça les amène à trouver ça plate, puis donc ils décrochent. On a beaucoup parlé dernièrement du décrochage des garçons, puis on essaie de comprendre pourquoi au Québec, il y a autant de petits gars qui décrochent. 1 sur 2 dans certains milieux. Des filles aussi, remarquez, là, le phénomène est moins fort, mais il est là aussi. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire en sorte que nos jeunes trouvent que l'école, à 14-15 ans, c'est important?
Bien, nous, avec le Lab École, on s'est penché beaucoup là-dessus, on a regardé beaucoup d'études. Vous savez, le garçon et la fille aussi, mais quand on pose la question...
Mais surtout les gars c'est vraiment important.
Mais la fille aussi. Vous savez, quand moi je pose la question, je me promène sur le terrain, je visite des écoles toutes les semaines, puis je fais des marches avec eux et tout ça, puis je pose toujours la question aux enfants. Puis c'est spécial la réponse spontanément.
C'est quoi la question?
On leur demande, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Ben, d'emblée, les garçons disent le cours d'éducation physique. C'est généralisé. Les garçons, c'est le cours d'éducation physique. Ils aiment bouger. Ils aiment la récréation. C'est le moment où ils peuvent se défouler. Les petites filles aussi, parce que ça leur permet de socialiser, puis...
Ouais.
Puis de bouger. Moi, je suis contre les récréations organisées. Laissez amuser les enfants là, librement. Mais également, bien entendu, le garçon a besoin de bouger. Ça, c'est nécessaire. C'est dans son ADN. Puis quand on leur pose la question ensuite, c'est quelle autre chose qu'ils aiment? T'sais? Finalement, ça revient toujours. On aime ça être dehors. Puis moi, j'ai regardé les écoles primaires du Québec. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont un abri extérieur. Donc, quand il pleut, on les rentre à l'intérieur. Parce qu'il pleut. Mais pourquoi on ne les laisse pas à l'extérieur? Parce qu'il n'y a pas d'abri. Pourquoi on n'a pas pensé à mettre des abris extérieurs où on pourrait socialiser, où on pourrait pique-niquer, où on pourrait rester à l'extérieur même s'il pleut, où on pourrait rester à l'extérieur parce qu'il fait soleil pour les rayons UV? Donc, on n'a pas pensé à ça aux écoles primaires. Donc là, les prochaines écoles qui seront bâties auront cette préoccupation. Parce que les jeunes nous disent qu'on aime, c'est être dehors.
T'sais. C'est clair.
Donc, est-ce qu'on peut faire la cour à l'extérieur quand il fait beau? Ben oui, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Ah, on n'est pas aménagé pour ça. Donc, il faudra avoir un peu le modèle. Puis le corps enseignant, contrairement à ce qu'on pense, là, ils sont très volontaires. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Non. Mais si on leur donne des données probantes qui confirment que quand le jeune bouge 15 minutes, il devient beaucoup plus concentré. Donc, c'est pour ça que moi, probablement, dans les prochains mois, je travaille sur un projet. On appelle ça des écoles 45-15. Donc, c'est des écoles qui vont accepter de faire donner 45 minutes,
De cours,
de pédagogie,
15 minutes
de break où le jeune peut se défouler, revenir en cours, défoulement, revenir en cours, défoulement. Puis on va les comparer ensuite avec des écoles normales pour voir finalement, là, on a des preuves scientifiques au niveau cognitif, où la concentration des jeunes, puis leur attention. Donc, on sait maintenant que c'est extrêmement bénéfique quand ils vont bouger. Puis là, je ne vais pas mettre juste le sport. Il y a d'autres facteurs. Il y a l'art, les cultures et tout ça. Tout ça, c'est important pour rendre l'école belle et que les écoles se donnent des couleurs. Moi, je rentre dans des écoles primaires parfois, là, puis ils se donnent des couleurs. Puis il y a un sentiment de fierté, autant du personnel que, oui, des enfants et des parents.
Qu'est-ce que tu veux dire, ils se donnent des couleurs?
Ben, parce que parfois, des fois, c'est l'art, parfois, c'est le cirque, parfois, c'est le sport. Quand le jeune vient d'ici, la couleur est verte. Puis quand tu vas sortir d'ici, là, dans 6 ans, là, ben, tu vas être peinturé vert et tu vas t'en rappeler toute ta vie.
Mm-hmm.
Je vois des écoles qui n'ont pas de couleurs.
Pas d'appartenance.
Puis tu sens qu'on donne les cours seulement, puis ça s'arrête là. C'est pas la majorité, mais la grande majorité essaie de donner des couleurs.
Mais ça vient de la part des... C'est les adultes qui insufflent ça.
Ah ouais. Le leadership,
c'est
la
le
direction.
C'est le leadership, voilà.
La direction, puis le problème au Québec, on change les directions. Entre les 2 ans, on les change l'école. T'sais. Ça, je pense, ça nuit. Des fois, ils vont l'étoffer 3 ans, non, mais... C'est quand tu t'es lié avec le personnel, tu as donné une couleur à ton école, hop, si on te change d'école, je ne suis pas sûr si c'est une bonne chose à faire. Là. Ben, c'est sûr que quand tu as un directeur qui n'a pas beaucoup de leadership, c'est sûr que quand tu es prêt avec, tu l'as 4-5 ans, c'est plate. Là, mais moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Il faut avoir un peu le modèle, puis se dire, puis mettre l'enfant au centre de nos préoccupations. Tiens. Puis moi, ce qui me préoccupe tout le temps, on l'a vu cet hiver, il y a eu... dans ma commission scolaire, dans mon coin chez nous, la commission scolaire de Jonquière, où ils ont interdit aux écoles que les jeunes puissent jouer dans les buts de neige, parce qu'on avait quand même accumulé beaucoup de neige. Puis moi, je trouvais ça triste. J'ai défendu les enfants. C'est sûr que je ne me fais pas d'amis là, auprès de la commission scolaire, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent les enfants. Dans les écoles, il y a beaucoup d'organismes qui défendent bien du monde, là, mais les enfants, il n'y en a pas beaucoup qui les défendent. T'sais. Puis moi, je les ai défendus.
Et on dit aux parents, on va même dire... que certains parents défendent trop leurs enfants par rapport au personnel scolaire.
Ouais,
puis c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux pas être contre le prof tout le temps, mais quand des fois tu vois des situations, tu te dis, ben là, c'est une règle un peu idiote que le prof ou la direction continue de mettre de l'avant. Ça se peut que l'enfant de 14, de 13, 12 ait raison de dire que cette règle-là est stupide. Ouais. Pourquoi on continue de perpétuer certaines choses qui devraient plus aujourd'hui en 2018?
Je suis d'accord, mais je pense que les écoles sont en changement. Parce que pour me promener dans les écoles...
Ça change pas vite,
Mais non, quand on les prend individuellement, non? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque école est différente. Chaque milieu est différent. On l'a vu dans le Lab École, on pensait, OK, avec 5 modèles, on fait le Québec au complet.
Oui,
non,
mais
non,
les
non.
gens n'ont pas le choix. Écoute, regarde, il y avait un cas cette semaine, un enfant, là, puis je pense jeune, là, au primaire, qui vient de perdre son père, je pense, et qui doit... à qui on a dit, on va changer d'école, cette personne-là, parce que donc... comme il va habiter chez son autre parent, il n'est plus dans le même quartier, donc il change d'école parce qu'on oblige les enfants à aller dans l'école de leur quartier. Tu changes de quartier, tu changes d'école. L'enfant vient de perdre un parent. Là, en plus, c'est un deuil incroyable à faire. Même adulte, c'est dur de perdre quelqu'un
là,
de t'aime. Imagine
amis.
Quand t'es enfant. T'as besoin de... Change pas deux affaires en même temps.
Non, c'est officiel, là,
change, tu comprends? Puis l'école dit, non, on ne changera pas d'idée. Faut-tu être assez boqué puis pas comprendre?
C'est sûr qu'il y a des aberrations, puis j'en vois l'occasion, mais je vois des belles choses. Sincèrement, moi, je vois du
monde. Non, mais je comprends qu'il y a des belles choses, puis t'es souvent... oui, mais en même temps, tu vois, dans des cas comme ça, t'as envie de dire, voyons
donc.
Non,
ça, jugement, totalement.
Mais il y en a beaucoup de manque de jugement, malheureusement. Ouais. Le temps passe très vite, on va s'arrêter ici, très courte pause. Si vous voulez intervenir, poser des questions, nous faire des commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. On parle de beaucoup de choses avec Pierre Lavoie, bien sûr qu'on parle d'éducation, finalement, de décrochage de nos jeunes. Est-ce que le sport devrait pas avoir une plus grande place? Lui, en tout cas, essaie de nous faire bouger beaucoup. Il y a les cubes d'énergie, là, c'est encore jusqu'à la fin mai. Il y en a qui pèsent, mais il y en a qui aiment beaucoup ça, là, comme Qatar qui m'écrit « Le prof d'éducation physique a imposé 1 heure d'activité physique par jour pendant 7 jours. Ça comptait dans la note d'examen. Je vous dis que mon garçon, pas très porté sur le sport, s'y est mis et a réussi son défi. » Donc, tu vois, ça a de l'impact positif chez les jeunes. C'est sûr que des fois, là, ça ne nous tente pas non plus de bouger, mais il faut se donner une petite... faut se pousser un peu pour que ça... Alors, vous pouvez nous joindre et joindre Pierre Lavoie au 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Je suis en compagnie de Pierre Lavoie et on pourrait faire tellement d'heures avec toi, Pierre, parce qu'on peut parler de plein de sujets. Je trouve ça vraiment fascinant de discuter d'éducation, d'activité physique, d'espoir aussi. Pendant la pause, on se disait que... Je te rappelais qu'il y avait quand même un certain fonctionnarisme aussi au Québec. Puis tu disais, effectivement, des fois, je le vois, toi, tu le vois.
Oui.
Tu dis, parfois, trop d'initiatives, ça dérange.
Ouais,
des fois, des jeunes profs qui arrivent en éducation physique veulent changer des programmes, puis ils se font dire par les quatre autres qui sont là depuis 25 ans, là, regarde, on va t'expliquer comment ça marche. C'est pas comme tu penses que ça va se passer.
C'est humain, là, parce qu'on dit que
oui, mais ça
nuit aux
jeunes.
Ce que l'humain au monde, c'est le changement. Donc, quand on change les affaires... C'est difficile, ça provoque des choses. Mais moi, je suis toujours rassuré quand je fais du terrain puis d'avoir qu'on lance des initiatives comme les cubes énergie qui sont pas obligatoires pour les enseignants puis qu'ils l'acceptent à 1450 écoles. Là.
Ouais.
C'est majeur. Là. C'est quand même 80% des écoles au Québec qui font le programme puis sont pas obligés de le faire.
Ouais.
Puis la course qu'on a fait en fin de semaine, on accepte seulement 145 établissements, mais il y en a 250 qui s'inscrivent. Là. On peut pas tous les prendre. Là,
ouais.
Donc, on voit que sur le terrain, il y a des gens qui sont prêts à la guerre, sont prêts finalement à faire des efforts.
Ouais.
Oh oui. Puis c'est eux.
Oui, mais ça reste quelque chose. Ça devrait pas être si t'es chanceux, t'as une bonne école. Si t'es chanceux, ton prof d'éduc est bon. Si t'es chanceux d'avoir dans ton quartier tout ce qu'il faut. Ça devrait pas être ça.
Ça devrait être une norme.
Ça devrait être une norme au Québec. Ouais. On a Nathalie qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
En fait, ce que je voulais apporter, c'est que j'étais d'accord avec M. Lavoie sur le fait de la compétition avant l'âge de 14 ans.
Ouais.
Moi, ma fille aimait beaucoup le volleyball.
Mm-hmm.
Un jour, évidemment, il y a eu les équipes qui ont été faites pour aller faire de la compétition étant secondaire 1. Donc, c'est un peu jeune, mais encore, mais bon, c'est avant 14 ans. Et puis, elle a évidemment pas été choisie parce qu'elle n'est pas tombée dans le côté sportif, tu sais. Mais je trouve ça dommage parce que, en fait, le sport était plus comme un besoin de gagner, là, tu sais. C'était plus le juste on participe. Moi, je disais, ben, l'important, c'est que tu participes, tu aies du plaisir. Mais là, c'était plus ça, c'était plus assez, là, tu sais. Fait que c'est ça, elle a perdu le trip du sport, a comme arrêté là. J'ai essayé de vouloir la mettre dans la natation. Elle a pas voulu parce qu'il y avait encore une fois de la compétition.
Ouais.
Fait que vous voyez, tu sais, quand t'es pas sportive, comme M. Lavoie disait, quand t'es pas naturel, ben ça prend un petit peu de pushing à côté. Puis papa puis maman, ben c'est pas suffisant des fois.
C'est vrai, mais je reconnais tellement. Moi, je reconnais mes filles dans la vôtre aussi, Nathalie. Mes filles ont fait du ski, puis ont même été monitrices de ski à Bromont, mais elles voulaient pas faire de la compétition. Tout l'élément compétitif, ça les ennuyait profondément. Mais c'est pareil, à l'école, en secondaire 1, ma dernière, Laura, était dans l'équipe de soccer. La deuxième année, elle l'a pas faite. On lui a dit, ben non, t'es pas assez bonne.
Ouais, c'est ça.
Elle a plus refait de soccer depuis. Ça l'a beaucoup déçue.
Moi, ce qui me déçoit, c'est que, tu sais, au primaire, on fait quand même une approche inclusive. On fait bouger les jeunes pour maintenir leur corps en santé. T'sais, c'est vraiment l'approche saines habitudes de vie. Puis quand on arrive au secondaire, les structures compétitives sont mises en place pour avoir une équipe de volleyball ou de basketball. Moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est qu'on a travaillé tellement fort au primaire pour montrer que l'activité physique, c'est pour maintenir ton corps en santé. Et là, tu arrives dans une structure compétitive où si tu as un peu moins de talent, à travailler fort, tu vas réussir. Oui, mais c'est parce que ce que je pourrais le faire pour le plaisir.
Mais qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui disent « Oui, mais au Québec, regardez, on a de la misère avec la compétition. Nos enfants, on peut pas leur dire qu'ils sont numéro 1, numéro 2, numéro 3. On fait semblant que tout le monde est bon. » Il y a du monde qui pense ça.
Ouais, mais donc,
puis qui disent « Regarde, après ça, ils vont frapper un mur quand ils vont se ramasser au marché du travail où là, il y a de la compétition pour vrai. » Tu réponds quoi à ça, Pierre?
Je dirais « Regardez les pays scandinaves qui nous clenchent dans tous les Jeux olympiques avec une structure inclusive, aucun sport compétitif avant 14 ans. » Pourquoi qu'eux, finalement, avec moins de monde que nous, finissent dans les premiers au monde avec une structure inclusive? C'est le modèle inverse du modèle américain. Nous, on dit que c'est le modèle américain, le Québec, là. Puis moi, je suis toujours triste de voir qu'un jeune qui est avec ses amis, qui sont inscrits au volleyball, OK, en secondaire 1, puis c'est du développement, là.
Ouais.
Mais que lors du tournoi, on va la mettre sur le banc parce qu'elle n'est pas capable de faire le service par-dessus le filet parce qu'on veut gagner la bannière dans le gymnase. Moi, j'ai de la misère avec ça. C'est que je suis pas contre le sport compétitif, mais à l'école, il doit avoir aussi une structure d'accueil, plaisir, faire du sport avec nos amis pour le plaisir. Pourquoi qu'il n'y aurait pas une équipe de volleyball qui s'entraîne pour le plaisir entre amis? Vous savez, le hockey, il a fallu avoir du genre de sport amateur où ce qui se fait des, justement, des gens qui vont continuer à jouer au hockey pour le plaisir entre amis. Heureusement qu'il y a ça, là. Mais quand tu regardes le modèle de hockey, là, c'est des arénas. Même chez nous, on veut construire une aréna de 52 millions, là. Puis il y a 99 % du temps, il n'y a pas de monde dans les estrades, là. Puis c'est pour 12 joueurs, c'est à patinoire. J'ai un petit peu de misère avec ça, moi, personnellement. Là. Je préférais peut-être plus le construire des plateaux sportifs pour les personnes âgées qui ont des besoins présentement, mm-hmm. pour les écoles primaires et secondaires qui auraient besoin d'aller peut-être nager dans un bassin de 18 couloirs.
Mais
pas
les piscines, c'est
pareil.
Oui,
mais c'est parce que c'était construit ouais. avec des couloirs, 6 couloirs, ouais. gérés par des écoles, puis c'est toujours fermé. Ouais. Donc, il faut revoir un peu le modèle pour dire, soyons inclusifs. D'abord, moi, ce que je dis toujours aux gens, qu'est-ce qui est plus payant? C'est de gagner le classement général des médailles aux Olympiques ou de gagner la médaille d'or de la société la plus en forme au monde. Ça, c'est pas mal plus payant pour une société, selon moi.
Ouais, mais regarde, c'est bon, c'est un bon point que tu dis, mais regarde les Olympiques. Les gens vont compter les médailles, puis après ça, ils vont... On pense pas à nos athlètes pendant 4 ans, mais pendant les 2 semaines des Olympiques, on est là à compter leurs médailles. Puis
déclaration...
finalement, ils sont pas bien bons. Ah, là, soudainement, ils sont bons.
Ben, moi, je fais une déclaration aujourd'hui. Là, ouais. C'est que moi, si, d'ailleurs, j'en parlais justement à Marianne Saint-Jacques qui était avec moi en fin de semaine, elle court avec moi. Là.
Ouais.
J'ai posé la question, je dis, si on laisse tomber les Olympiques, on détruit le système, il n'y a plus d'Olympiques, c'est terminé. Et d'abord, c'est un show qui dure 14 jours ou 4 ans. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est que tous ces milliards que ça coûte, mettre cette structure en place, on le redonne au sport amateur et on focus sur les championnats du monde. Une fois par année, on a un championnat du monde. Tu n'as pas 4 ans pour te reprendre. Tu te reprends à chaque année, puis tu ça nuira pas à tes études. Tu pourras arrêter quand tu veux parce que le rendez-vous annuel, il est au championnat du monde annuellement. Et tout cet argent qu'on met pour les Olympiques, finalement, on donne beaucoup d'importance à une médaille olympique, mais un champion du monde, ça sent moins important que les Olympiques.
T'as
pourtant,
raison.
C'est le même monde.
Mais l'argent
devrait être...
C'est les commanditaires.
Oui, mais
va falloir
on devrait le redonner au sport amateur.
Ben, dis-le à McDonald's, dis-le à tous ces commanditaires qui, eux, ils voient un intérêt commercial.
Le modèle américain, le modèle capitaliste, médaille, performance. Hein? Je suis pas contre la performance, là.
Ouais.
Mais je me dis, si je me tourne dans une école pour on joue ce jeu, dans une école secondaire, ouais. tu le fais inévitablement en faisant de l'exclusion. Et à ce moment-là, tu as 80 % des écoles, des jeunes à l'école qui ne bougeront pas. Ben, c'est plate. Ça veut dire que le modèle n'est pas bon.
On a Éric avec nous. Rapidement, Éric, avant la pause, bonjour.
Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, je veux juste féliciter l'école primaire de mon fils à Villemort, Saint-Jean-de-Mata,
ouais.
qui sont extrêmement flexibles. Écoutez, ils lui ont permis de faire sa maternelle et sa première année dans la même année, parce que ça allait un petit peu trop vite. Puis sportivement parlant, ben à cause de son format, ils lui ont permis de faire d'éducation physique avec les troisième années. Il y a un système, le trottibus, qui prend les enfants, qui les fait marcher 1 km à tous les matins pour aller à l'école. Le professeur de première année leur fait faire 20 minutes de gym à tous les matins. Puis ils ont même ajusté les horaires de cours parce que mon fils joue au tennis 3-4 fois par semaine à l'Île des Sœurs. Donc, ils sont capables de s'ajuster selon leur clientèle pour de faire bouger les jeunes au minimum 1 heure par jour.
Mmh. C'est d'abord, ce qu'il faut faire, je pense, les amis, le doigt dessus, là. Il faut dire aux écoles, on a un objectif sociétal. Faire bouger un enfant 1 heure par jour, minimalement tous les jours. Là, donc, les parents ont une responsabilité, l'école également, et la ville aussi a une responsabilité. Demain, je serai à l'UMQ, là, l'Union des municipalités du Québec, là, où je vais leur faire un petit message sur la ville, votre rôle, l'école dans votre quartier, le 1,6 km. Est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce mm-hmm. que vous vous occupez vraiment bien? T'sais? Donc là, maintenant, on a une responsabilité sociale, collective, sociétale, de s'assurer qu'un enfant bouge 1 heure par jour.
C'est bouger, puis c'est tout ce qui est autour aussi, l'alimentation. Là. Tu vois, parlons de la ville
totalement.
De Montréal. Demain, d'ailleurs, on va parler des taxes municipales, justement, parce que les villes se rencontrent cette semaine. Mais à la ville de Montréal, une des bonnes choses, tu sais, on peut gueuler sur beaucoup de choses, mais il y a une bonne chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont décidé de ne plus avoir de boissons sucrées dans les écoles.
Ah oui, c'est...
Et dans les centres qui étaient... les centres municipaux, les arénas de la ville.
Moi, je serais le gouvernement, je ferais un règlement, là, okay,
ouais.
une loi, à 1,6 km de l'école, okay, interdit d'avoir des entreprises de malbouffe. Okay, interdit. Vous avez, mettons, 10 ans pour vous conformer. Donc, s'il y a une école qui se construit, t'as beau te construire un McDonald's, tu vas être hard dans 10 ans. T'es mieux pas te construire à côté de l'école. Tu leur donnes 10 ans pour se conformer. Pour être libéré de l'espace, 1,6 km autour de l'école. Il faut, l'enfant, il est captif. Il est captif de tout ce qu'il y a autour de lui. Puis il faut s'assurer qu'on donne le maximum de chances. Le transport actif, l'offre alimentaire autour de l'école, c'est les trois rapprochés. Ou, si tu as un commerce, tu dois avoir 90 % de ton offre alimentaire qui est santé. tu peux te construire.
Toi, tu ferais ça demain matin?
Ah oui, demain matin, il va falloir prendre ces modèles qu'on voit ou ce qui ont des bons succès. Mm. Et c'est pas, ah, c'est la faute des parents, ah, c'est la faute de l'école. Je vous le dis, là, c'est le gouvernement doit mettre des règles. Là, la société est prête à accepter des mesures contraignantes qui vont amener le changement.
Je suis pas sûr.
Ben oui, moi, je pense que...
Sur les boissons sucrées, c'est juste chaque fois que je pose la question, les gens sont contre, là. Mais je vais poser la question pendant la pause.
D'enlever la boisson sucrée dans les écoles?
De taxer les boissons sucrées.
Ah oui, la taxe, mais ça, c'est autre
taxer
chose.
Les boissons sucrées, les gens sont contre.
Moi, je suis beaucoup plus pour l'éducation en passant. Hein.
Ouais.
C'est comme...
On va voir si ça passerait. Ça. Mettons que tu t'en vas en politique, on dit ça comme ça. Là. Et puis que tu dis, tiens, demain matin, plus de junk food autour de nos écoles. 1,7 km, t'as dit?
1,6. C'est la distance qu'un enfant... marche pour aller à l'école, sans ça, il doit prendre l'autobus. Donc, ouais. Cette distance où le jeune se
intéressant,
déplace...
Intéressant, très intéressant.
D'ailleurs, quand il le fait, là, il atteint son heure par jour, juste en marchant pour aller à l'école.
514-790-9850, on revient tout de suite après. On a Isabelle avec nous. Bon, êtes-vous d'accord avec ce que vient de proposer Pierre Lavoie? Je résume rapidement. En fait, c'est de dire pas de junk food, pas de surface qui vende du junk à nos enfants autour de l'école, 1,6 km. Vous pensez quoi de ça, vous?
C'est sûr que je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que alentour, surtout des écoles secondaires, surtout à partir du secondaire 1, les élèves partent à pied, peuvent sortir de l'école et les Subways et compagnie et pizza et tout sont vraiment très près des écoles. Donc oui, je suis d'accord avec cette opinion-là. Puis moi, je voulais aussi partager l'opinion des écoles alternatives. Ma fille fréquente l'école alternative, donc je suis souvent à l'école et je trouve que la façon de fonctionner à l'école alternative permet aux garçons, entre autres, de pas être dans des positions statiques que les enfants, les élèves sont en travail, ils peuvent être assis, debout, ils peuvent sortir de la classe, ils peuvent vraiment prendre en main aussi leur travail, leur façon de travailler. Puis aussi, ils ont les projets qui amènent les jeunes à choisir ce dans quoi ils veulent parler, donc le sport peut être mis de l'avant par le jeune, l'art peut être mis de l'avant par les élèves aussi.
On va chercher donc, leur passion, finalement. C'est ça qui est intéressant. Pierre Lavoie, là-dessus, ce que vient de dire Isabelle.
Oui, totalement. L'intérêt du jeune, ça, savoir c'est quoi leur intérêt. L'école, elle doit changer. On en convient, non? Ce modèle-là qui s'était construit entre 55 et 60, là. Aujourd'hui, on doit faire des modèles différents, adaptés à la réalité d'aujourd'hui, parce que les besoins sont différents.
On a Martin avec nous. Lui, je pense que Martin n'est pas d'accord avec l'histoire des grandes surfaces qui ne seraient pas autour de l'école. Bonjour, Martin.
Bonjour.
Vous en pensez quoi?
Ben, écoutez, moi, dans le fond, je suis restaurateur, puis je ne suis pas vraiment d'accord avec cette situation-là. Je suis 100% d'accord à ce que nos enfants mangent santé. Je suis d'accord à ce qu'on ne mette pas de boissons sucrées dans les écoles, mais 1,6 km, là, ça fait presque 3 km de diamètre. Écoutez, il y a même des villages qui n'ont pas ça, 3 km de diamètre. Donc, je trouve que c'est un peu utopique de s'imaginer. On dirait que la société québécoise, les gens remettent toujours la faute sur les autres. Ah, c'est la faute des McDo, ah, c'est la faute des restaurants. Commencez donc par donner des saines habitudes alimentaires à vos enfants à la maison. Mm-hmm. Faites-leur manger des carottes, des céleri au lieu de dire toujours la faute des autres. Mm. Quand on apprend à bien manger, on apprend que le McDonald's, justement, c'est pas quelque chose qu'on doit se nourrir tous les jours. Tant qu'à ça, il faudrait peut-être enlever également les dépanneurs. Les dépanneurs, ils ont des cigarettes. Fait qu'ils vont aller s'acheter des cigarettes, ils ont des chips, des barres de chocolat, donc on devrait enlever ça. On devrait peut-être enlever les épiceries, il y a aussi de la mauvaise nourriture, on devrait peut-être enlever... Il y a tant qu'à ça, on va tellement épurer, il ne restera plus rien. Mm. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu utopique de s'imaginer qu'on va... Faut absolument tout retirer. Je pense qu'il faut se responsabiliser aussi un peu.
Pierre, là-dessus?
D'accord. Mm. Je suis d'accord totalement avec ses propos. 1,6, c'est un peu exagéré, là, mais l'important, c'est de savoir... Moi, je fais le tour des écoles, là, mais la malbouffe n'est pas à 1 km. Là.
Elle est dans l'école, souvent.
Ah, ben oui, elle est à 200-300 mètres.
En fait, quand
c'est
tu
juste
qu'il ça...
faut se donner le maximum de chance, là, parce que maintenant, les deux parents travaillent. L'école, c'est plate, mais elle s'est ramassée avec beaucoup de responsabilités dans sa cour. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas ça facile. Là. Maintenant, on dit comment on fait pour leur donner le maximum d'outils.
Mais
la malbouffe, c'est un des problèmes majeurs. Là. C'est un des problèmes majeurs. Là. On sait, là, l'obésité chez les jeunes qui a triplé dans les 20 dernières années. Qui ont des diabètes de type 2 à 12 ans, on dit, ouais, c'est la faute des parents. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, est-ce qu'il reste un filet de sécurité quelque part pour l'aider à reprendre peut-être le droit chemin. Non?
J'ai Julie là, qui m'écrit que son garçon est TDAH. Il a été mis dans une classe pour troubles de comportement en quatrième année. On avait dit que ça va être temporaire. On trouvait qu'il dérangeait trop. Fait qu'ils ont été mis. Il y avait la moitié de la classe, d'après elle, qui avait le même problème. Il dit, finalement, là, tout ce qu'on est capable de faire pour le tranquilliser, qu'on pense, c'est lui couper l'éducation physique. Dès qu'on court, elle me dit... Il coupe les cours d'éducation physique lorsqu'il n'écoute pas. Il ne peut pas participer aux activités de fin d'étape, qui sont des activités extérieures, parce qu'il a eu des difficultés les dernières semaines. Elle dit, je me bats avec l'école, avec la commission scolaire, il n'y a rien à faire. C'est David contre Goliath. Elle dit, c'est vraiment déprimant.
Ouais, c'est triste, parce que les études sont là. C'est l'inverse. Ce groupe-là doit bouger.
On devrait faire l'inverse.
Ah ben oui, c'est ça, totalement.
Mais comment on passe ce message-là, alors?
Ben, aller au comité de parents, s'impliquer dans l'école, conseil d'établissement... Moi, je l'ai vu dans des écoles où il y a des parents qui ont exercé leur droit de parole puis d'influence. Ils réussissent pas toujours, mais je dis toujours aux gens, l'école qui est dans votre quartier, là, elle n'appartient pas à la commission scolaire, elle vous appartient, puis grandit dans ses murs, vos enfants. Ils avaient tous intérêt à vous en préoccuper et à vous investir. Donc, et ça, c'est dans tous les aspects au complet. Donc, tantôt, on en parlait. Si le quartier décide que la malbouffe, c'est fini autour de l'école primaire, ben, secondaire, ben, c'est le quartier qui décidera quelle voie qu'on veut prendre, quel environnement qu'on veut pour nos enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui rendent nos enfants captifs, puis il faut s'en préoccuper. Puis il ne faut pas attendre que les problèmes soient encore plus graves, parce qu'on sait qu'on se dirige vers une société encore de plus en plus sédentaire, malgré qu'il y a des programmes, là, c'est pas évident. Donc maintenant, on dit toujours que ça prend un village pour élever un enfant, puis je pense que ça sera toujours vrai, là.
Merci beaucoup, Pierre Lavoie. C'est toujours passionnant de t'entendre. On n'a même pas eu le temps de parler de ton prochain Ironman à Hawaii. Il faudra que tu reviennes. Quand est-ce que tu es supposé le faire?
C'est en octobre, mais c'est ma fille Juliane qui m'a embarqué là-dedans.
On a le temps de...
Je vais prendre un break, là, mais bon.
On a le temps de te reparler de tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Pierre Lavoie, tout de suite après la pause, on va parler justement de la mode du sans gluten. C'est quand même le mois de la maladie cœliaque. On va vous informer là-dessus. À tout de suite.